Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 14 janvier 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la dernière semaine?
Bien, je pense que la nouvelle, moi, qui m'a le plus accroché depuis le dernier balado, c'est le chiffre d'emploi aux États-Unis vendredi dernier. On s'attend, le marché de l'emploi continue d'être quand même assez fort aux États-Unis, mais jamais on pensait que ce serait aussi fort que ça l'a été. Il s'est créé 256 000 emplois au mois de décembre. On s'attendait à une légère hausse du chômage. On a une légère baisse du chômage à 4,1. Au Canada, ben c'est seulement 90 000 emplois, mais si on vous rappelle que la population est 10 fois moins qu'aux États-Unis, c'est l'équivalent d'avoir créé 900 000 emplois aux États-Unis. Donc, un chiffre vraiment très, très fort, très élevé. C'est 90 000 emplois, mais dont 57 000 à temps plein. Fait que c'est encore plus fort. Donc, la baisse de taux de la Banque du Canada du mois de janvier, on verra, là, mais bon, mettons que je mettrai pas un vieux 2 sale frippé là-dessus. Là, je ne suis pas sûr qu'elle va avoir lieu cette fois-ci. Mais bon, on verra un mois, ça ne fait pas une année. Là, il peut y avoir des mois inhabituels. Donc, au niveau des marchés boursiers, on est revenu un peu à l'époque, là, fin 2022, début 2023, où les bonnes nouvelles étaient des mauvaises nouvelles. Hein? Donc là, on a un chiffre d'emploi, un excellent chiffre d'emploi. Ça a un impact négatif sur les bourses parce que ça vient retarder les baisses de taux. Hey, peut-être même les éliminer, peut-être même changer de direction du côté américain, qui sait, on verra bien. Donc, depuis une semaine, on a une baisse sur les marchés boursiers au Canada, environ 1,5%. Aux États-Unis, sur le S&P 500, 1,3%, 2,2% sur le Nasdaq. Les taux d'intérêt sur les obligations de 10 ans aux États-Unis sont passés de 4,68 à 4,78, donc une hausse de 0,10. Au Canada, encore plus, un quart de pourcent de hausse, là, 25 points de base depuis une semaine sur les obligations. Et puis, dollar canadien ben, continue là, d'être relativement faible. On est rendu dans le bas 69. Donc, ce sont les principales nouvelles financières pour l'instant. On est dans peut-être une zone de turbulence. Il reste un gros 6 jours avant qu'on ait l'inauguration. Est-ce qu'il y a un lien? Peut-être, peut-être pas. On va demander à notre invité qu'est-ce qu'il en pense.
C'est ça. On attache nos ceintures puis on reste calme. Merci beaucoup, Martin. Comme nous faisons souvent en début d'année, nous avons invité notre ami et collègue Jean-René Ouellette, analyste senior et gestionnaire de portefeuille pour gestion de patrimoine Desjardins, pour venir discuter de certaines questions. C'est probablement des questions que beaucoup de clients ont, qui n'ont pas nécessairement posé à toi et moi, mais qui ont dans leur cœur et que la prochaine fois qu'on va appeler, on va les entendre. Donc, on va les adresser aujourd'hui avec JR. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Hey, bonjour Sarah et Martin, avec grand plaisir.
Donc, nous allons commencer avec la question la plus posée par nos clients pour les élections, depuis les élections américaines. Comment les tarifs douaniers qui seront imposés par Donald Trump sur les produits canadiens affecteront l'économie des deux pays, notamment en termes de coûts pour les entreprises canadiennes, de répercussions sur les consommateurs américains et de conséquences pour les secteurs clés des deux économies?
Sarah, c'est clair que c'est la principale question auquel nous faisons face à l'heure actuelle. C'est sur toutes les lèvres, c'est sur toutes les tribunes. Nos entrepreneurs se posent des questions. En même temps, moi, je veux rappeler aux gens, revenons en arrière, restons calmes, prenons 2-3 grandes respirations, puis revenons à 2016. 2016, pourquoi? Quand Trump est entré au pouvoir, il avait claironné sur toutes les tribunes que l'ALENA original était le pire accord commercial jamais signé par quelconque pays que ce soit de l'histoire de l'humanité. Bon, de l'épée d'Anclès sur l'économie canadienne. Finalement, il a renégocié l'ALENA, qui est devenu l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique, qui ressemble sensiblement à l'accord précédent. Mais ça, c'est devenu un accord extraordinaire parce que c'était aussi le sien. Bon, donc après ça, ben, il a aussi baissé les impôts, mais ses grandes réalisations après ça, dans son premier mandat, M. Trump, sont plutôt, somme toute, excessivement limitées. Il n'a pas fait de plan d'infrastructure, il n'est pas sorti d'Afghanistan, il n'a pas abrogé Obamacare, il n'a pas fait accepter de lancer là, le duc Keystone XL, entre autres. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il avait promis qu'il n'a pas faites. Il n'a pas fait non plus bâtir de murs au sud des États-Unis et payer par les Mexicains. Non, mais on peut s'en rappeler. Puis je pense que c'est important parce que il a été élu, puis là, aujourd'hui, on est inquiet de savoir s'il devait réaliser ce qu'il a promis qu'il allait livrer. Un, je pense qu'il faut mettre en perspective ce qu'il avait promis qu'il n'a pas livré. On nous dit aujourd'hui, oui, mais il a les coudées plus franches. Il avait autant les coups des franches en 2016. Il avait le contrôle du Sénat, le contrôle de la Chambre des représentants. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui, sa marge de manœuvre à la Chambre des représentants, elle est encore plus étroite. Jusqu'au mois d'avril, sa marge de manœuvre sera de 218 républicains contre 215 démocrates. C'est pas beaucoup, ça, comme marge de manœuvre.
Non.
Surtout quand on se rappelle que le suivi de la ligne de parti est nettement plus mou aux États-Unis que ce qu'on a au nord de la frontière, chez nous, au Québec et au Canada. Bon, prenons ça comme il se doit. En même temps, quand on annonce des tarifs, c'est sûr que théoriquement, ça se veut inflationniste. Ça se veut inflationniste, en bout de ligne. Aux États-Unis, ça a pour les États-Unis, ça a le potentiel d'être inflationniste. Pour nous, bien évidemment, ça a le potentiel de rendre nos biens moins compétitifs sur le marché américain. Mais je pense qu'il faut se rappeler l'importance de l'exportation dans l'économie canadienne. Il y a plein de secteurs économiques canadiens qui ne peuvent pas être touchés par ça. Quand on pense, ou très peu, quand on pense à notre secteur technologique, quand on pense à notre secteur de la restauration, du tourisme, des services, ce sont tous des secteurs assez importants dans notre économie, la construction résidentielle, qui ne seront pas affectés par ces choses-là.
Mmh.
Parfait. Et parmi les secteurs qui seront touchés, il y a des secteurs pour lesquels les Américains ont peu ou pas de substituts. Okay? S'ils veulent mettre des tarifs sur l'énergie canadienne, ils peuvent, mais c'est eux qui vont payer la facture tantôt. Je doute qu'ils veulent vraiment payer leur énergie, leur pétrole plus cher qu'à l'heure actuelle. Ils ont peu ou pas d'alternatives sur l'aluminium québécois et canadien. Fait que s'ils veulent mettre des tarifs sur l'aluminium québécois et canadien, ils vont en absorber le coût tantôt. Fait qu'il y a plein de séries comme ça où ils ont peu ou pas de substituts, alors le coût s'en va directement chez eux. Qui plus est, le net de l'impact sur l'économie canadienne, il faut voir. Jadis, on a déjà eu une économie canadienne où le secteur manufacturier était plus de 20% de l'économie canadienne. Aujourd'hui, le secteur manufacturier représente une douzaine de pourcents de l'économie canadienne. Oui, nos plus grands manufacturiers exportent beaucoup, c'est vrai. Mais toutes nos petites et moyennes entreprises au Québec, en Ontario, ce sont pas souvent des exportateurs eux-mêmes directement. Donc, avant de conclure que tout le monde est à risque et que tout va chambranler, prenons deux, trois grandes respirations, puis on va voir ce que ça va donner, ce à quoi on aboutira. Et est-ce que c'est une fin en soi de mettre des tarifs sur tout ou peut-être davantage une monnaie d'échange pour négocier d'autres choses? Moi, j'ai l'impression qu'on verra dans le plan B. Puis, n'oubliez pas, il y a 23 États américains dont le premier partenaire commercial, c'est le Canada. Donc, ce sont tous dans le lot, il y a un bon lot de ces États-là qui sont des États aussi républicains. Trump peut dire ce qu'il veut sur les tribunes, d'ailleurs, il dit ce qu'il veut quand il veut, comme il veut. Mais n'oublions pas qu'en coulisses, il y a un travail qui se fait. OK? Il a été élu pourquoi? Parce qu'il y a des ménages américains qui ont de l'inflation dans la gorge, qui ont ressenti qu'ils n'en avaient pas pour leur argent avec leur pouvoir d'achat. Même si l'économie américaine, c'est bien. Fait que si on est pour déployer des mesures à la Trump qui pourraient s'avérer encore plus néfastes et inflationnistes, j'ai l'impression qu'on va peut-être rebrousser chemin éventuellement. Mais on va. Bref, mon point, c'est mon message, c'est décrochez un peu, prenez deux, trois grandes respirations. On verra lundi prochain ce qui sera annoncé, mais mieux que ça, je pense qu'il va falloir attendre les prochaines semaines sur ce qui sera réellement appliqué. On traversera la rivière quand on y sera rendu.
Parfait. Et il y a un sujet
qu'on... Sarah, si tu me
oui,
permets,
vas-y.
On va rajouter une autre chose. La Banque du Canada ne restera pas assise sur ses lauriers. Si jamais les mesures tarifaires devaient être plus soutenue et forte que ce à quoi on s'attend aujourd'hui, ça veut dire qu'il pourrait y avoir un impact plus grand pour l'économie canadienne. Oui, on anticipe, on en a déjà parlé ensemble, on s'attend à ce que le taux directeur au Canada soit ramené à 2,25% à la fin de l'année et 2% au début de l'année prochaine. C'est vrai. Mais si l'économie canadienne se détériore plus qu'anticipé, la Banque du Canada peut répondre. Elle peut ramener son taux directeur à 1,5%, à 1%, voire même en dessous. Donc ça peut permettre d'aider également. Puis n'oubliez pas que la devise s'ajuste. Martin, tu le disais, le dollar canadien a fléchi depuis l'élection américaine. Ça, on attend des tarifs, le dollar canadien fléchit un peu, ça vient compenser une partie de l'effet. Il y a des mécanismes d'ajustement automatique qui sont déployés dans des mesures comme ça. On verra en temps et lieu.
Bien, merci d'avoir rajouté ça, Jean-René. C'est un excellent point. Il y a un sujet qu'on touche souvent en début d'année, et c'est ton opinion sur les taux d'intérêt au Canada et aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous donner ton opinion?
Bien, dernièrement, les anticipations, comme Martin, tu y as fait allusion, les anticipations de baisse de taux, dernièrement, elles ont été diminuées. Martin, quand on revenait sur les chiffres d'emploi, de voir que les taux d'intérêt augmentent, non pas parce que l'inflation est très forte, mais de voir que les taux d'intérêt augmentent un peu parce que l'économie est résiliente, Moi, je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle fondamentalement parlant. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que plus les gens travaillent, plus ils ont des revenus, plus ils sont consommateurs, plus les entreprises font des revenus et des bénéfices. Regarde, qu'est-ce qu'on veut, c'est essentiellement ça. Moi, de vouloir l'inverse, non, on veut que les données économiques se détériorent pour que les taux d'intérêt soient plus bas. Semble que c'est
contre-productif. Là, la bourse monte quand les profits des entreprises augmentent. Là. C'est, la bourse anticipe les profits des entreprises. Là.
Il faut qu'en moyenne, la réalité économique se justifie. Puis, en moyenne, en terme, si les bénéfices augmentent, bien, une entreprise devrait valoir plus cher dans quelques années si ses bénéfices ont augmenté, si ses revenus ont augmenté. Donc, moi, je le vois d'un bon œil. Oui, l'inflation aux États-Unis est un peu plus résiliente, mais au Canada, l'inflation, elle est confortablement de retour dans la fourchette souhaitée par la Banque du Canada, même au bas de la fourchette souhaitée par la Banque du Canada. Et si on fait l'exercice d'enlever les composantes du panier d'inflation qui sont liées à l'habitation, c'est de maintenir les taux d'intérêt élevés, ça ne favorise pas plus la construction de nouveaux logements. Donc oui, il reste beaucoup d'inflation liée à l'habitation, les charges d'intérêt hypothécaires, le coût des loyers. Mais quand on regarde l'inflation canadienne avec l'habitation, l'inflation, elle n'en reste plus beaucoup. Donc, la Banque du Canada, elle a les coups des franges pour poursuivre dans son cycle de relâchement monétaire. Puis on se rappellera, 2025 et 2026, ce sont de super grosses années de renouvellement hypothécaire au Canada. La Banque du Canada le savait. C'est pour ça qu'elle a voulu juguler son inflation bien plus tôt, pour baisser les taux d'intérêt, pour faire en sorte que les renouvellements se passent mieux. Mais c'est sûr que les renouvellements hypothécaires attendus au Canada, ça va venir faire une ponction dans les dépenses, dans le budget discrétionnaire des ménages. Donc, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde égal, c'est pas de manière uniforme, mais on sait que ça s'en vient. Fait que, bref, là, on s'attend toujours à un taux directeur qui devrait tendre vers les 2 % au Canada. Et ça, Martin, la cadence, à savoir si des baisses de 25 à tous les trimestres, on verra. Pour moi, la destination finale est plus importante que le rythme des baisses ou le calendrier auquel les baisses vont avoir lieu.
Puis on a brièvement parlé un peu d'inflation aux États-Unis. Là, on sent qu'aux États-Unis, le scénario de l'inflation est un petit peu différent. Là, on est comme accroché dans le haut 2. On a de la misère à baisser à la cible de 2 % de la Réserve fédérale. Là, on a des politiques de Trump qui semblent inflationnistes. On a une petite querelle qui se dessine entre Trump et Powell. C'est quoi le scénario du côté inflationniste aux États-Unis?
On verra ce que Trump va être en mesure de livrer réellement. Okay? Parce que oui, théoriquement, si on dit, on met des tarifs sur tout ce qui vient d'ailleurs sur la planète, bien, c'est sûr que le consommateur final, c'est l'Américain, c'est lui qui va payer la facture. Si on prend un autre volet important, on va déporter des dizaines de millions d'immigrants dits illégaux. OK, mais des immigrants dits illégaux, là, c'est aussi des gens qui travaillent localement. Fait que si on prend des millions de travailleurs et qu'on les déporte, il va falloir les remplacer par quelqu'un. Ça veut dire qu'on risque, quand on regarde les secteurs dans lesquels ces gens-là travaillent, l'agriculture, la restauration, les soins, l'hôtellerie, etc., bien ça veut dire que c'est toutes des industries qui vont faire face à une augmentation de leur salaire. Donc, potentiellement avec le désir de refiler ça aux consommateurs et de régénérer de l'inflation. Trump a été essentiellement élu parce que les ménages américains en avaient un ras-le-bol par rapport au coût de la vie. On ne va pas venir empirer la situation. Ça, il y a bien des... Fait que j'ai... Entre le discours de M. Trump et ce qui sera réellement livré,
le gouvernement. On verra bien.
Puis l'autre frein hyper important, si tu as parlé des hausses de taux tantôt, les hausses de taux d'intérêt, ça fait en sorte que le financement du déficit américain et du renouvellement de la dette coûte de plus en plus cher. Donc, est-ce qu'il va pouvoir réellement baisser les impôts autant qu'il le souhaite? Il va probablement chercher à reconduire les baisses d'impôts qu'il a déployées en 2017. Ça, probablement que ça va se faire. Mais quand il parle d'abaisser le taux d'imposition, le taux marginal d'impôt des entreprises de 21 % puis le ramener à 16, à 17, à 15 ou plus bas, bien ça, ça ne se fera pas sans coût. Et ça veut dire que j'ai hâte de voir quel sera l'état de la situation. Et si on voit que le marché obligataire est réticent un peu comme on l'avait vécu avec Liz Truss en Angleterre, puis que le marché obligataire répond, on dit, bien là, finalement, je ne suis peut-être pas assez payé pour le risque que je prends à financer la dette américaine et que son coût augmente à 5, 5,5 %. Vous allez voir que ça va freiner rapidement les anticipations de grosses baisses d'impôts, surtout que leur capacité à livrer des réductions de dépenses va probablement, elle aussi, être atrophiée par la réalité des opérations au quotidien. C'est pour ça que je dis, arrêtons donc d'écouter un peu la politique et regardons un peu plus les politiques. Elles sont beaucoup plus stables, elles changent passablement moins souvent, puis on gérera les politiques. Le reste, ça reste un show de boucan, ça reste du bruit. Concentrons-nous sur les choses sur lesquelles on a un réel contrôle. Et je ne pense pas que M. Trump ou Musk ont les contrôles réellement.
Puis on répète souvent à nos clients là, que d'essayer de faire des prévisions puis que personne, en fait, est en mesure d'anticiper puis de savoir exactement ce qui va se passer à la bourse. Mais on va quand même se prêter au jeu un peu le scénario probable. T'sais, on n'est pas dans l'univers de savoir ce qui va se passer, mais on peut se faire un scénario probable à la hausse, à la baisse. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver cette année?
Martin, c'est ça notre job, tu sais. On n'a pas de boule de cristal, personne n'en a. Fait qu'on regarde ce qu'on a devant nous, quelles sont les grandes tendances, les grands enjeux, puis on se doit de travailler de manière probabiliste. Puis même si on n'aura pas une lecture parfaite, une prévision, c'est pas parfait, mais on aime mieux travailler avec des modèles que sans modèles. Puis c'est aussi pour ça que vous ne travaillez pas dans votre gestion de patrimoine uniquement avec une seule classe d'actifs. C'est pour ça qu'on travaille avec différentes classes d'actifs qui ont des mouvements différents. Puis ça, pour moi, Martin, ce qui est le fun, et Sarah, ce qui est intéressant, puis surtout pour les gens qui nous écoutent, ça a changé depuis il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a 3, 4, 5 ans, quand on se parlait avant la pandémie, on avait peu de taux d'intérêt. Les taux d'intérêt étaient super bas. On avait tous les actifs obligataires qui généraient très, très peu de rendement courant de 1 et de 2, qui avaient aussi très peu de capacité de protection. Grâce à la lutte à l'inflation, 2022, ça a fait mal. Ça n'a pas été le fun pour personne, mais ça a eu un bon côté. Ça a restauré les rendements courants des obligations à des niveaux nettement plus intéressants. Hey, des fois, juste le rendement courant des obligations permet aux gens de rencontrer leurs expectatives sur les projections qu'on fait au niveau des projections financières. Donc, déjà là, on a restauré la capacité de livrer un rendement positif du marché obligataire, d'un. Mais de deux, on a aussi restauré sa capacité de protection. Ça se peut qu'on l'échappe sur l'économie, ça se peut qu'on l'échappe sur la bourse. Mais je le disais tantôt, si l'économie canadienne s'est d'ailleurs plus qu'anticipée, la Banque du Canada va répondre en ramenant son taux directeur plus bas, ce qui va probablement entraîner l'ensemble des taux d'intérêt à la baisse et générer des gains extraordinaires sur le marché obligataire qui nous permettront à ce moment-là de prendre nos profits sur nos obligations et de redéployer ces sommes-là dans des actions qui vont potentiellement valoir moins cher. Et ce rééquilibrage-là, ce rebalancement-là, cette discipline-là en gestion de portefeuille, bien, fait en sorte de dégager de la valeur. Non pas tout le temps, non pas à chaque mois, non pas à chaque période, mais en moyenne au fil du temps. Fait que moi, j'aime cette restauration-là du côté rendement courant obligataire, mais aussi protection, capacité de protection advenant qu'on l'échappe économique ou marché. Ça, bien, je pense que c'est rassurant pour un investisseur qui écoute votre podcast.
Donc, pas juste subir la baisse, mais aussi de pouvoir en profiter en ayant des titres qui nous permettent qu'on peut vendre puis profiter justement, acheter à rabais. Donc, ben merci beaucoup, Jean-René.
Oui, merci, Jean-René, puis merci à toi, Martin. Pour tous nos clients et partenaires, Martin, Mathieu, Michel et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos objectifs, vos questions, surtout dans cette période-ci. Communiquez avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.